depuis toujours, les ennemis du peuple d'Israël, sans arrêt, ils essayaient d'enlever la Torah orale de chez les Juifs. C'était connu que depuis toujours, quand il y avait des pogroms, sans arrêt, ils prenaient Chas v'Shalom, Kacha, les livres, les gemarot, et ils les brûlaient. Une fois, le Rav Citruc, il y a à peu près, il y a peut-être 28 ans, 29 ans en arrière, je me rappelle, il nous a raconté dans un cours, quand j'étais à la synagogue, je partais les cours du Rav Citruc, Zichron Evrocha, c'était extraordinaire ces cours. Et il a raconté qu'une fois, la mairie de Paris, place de la mairie, ils ont hôtel de ville là-bas, hôtel de ville à Paris, ils l'ont invité pour une fête ou quelque chose comme ça, pour l'inauguration de la nouvelle hôtel de ville, quelque chose comme ça. Ils ont construit avec quelque chose, ils l'ont invité dans une fête. Et il devait faire un discours. Et il s'est dit, le Rav Citruc, moi je vais faire un discours ici. Dans cet endroit-là, il y a à peu près il y a 700 ans en arrière, les goïms, ils ont amené des agalotes, des charrettes, remplies avec des livres du Talmud, et ils les ont brûlés ici. Donc ici, je vais faire un discours. Il a dit dans le discours, je suis là aujourd'hui, mais rappelez-vous, je vous rappelle, il y a des centaines d'années en arrière, dans cet endroit-là exactement, ils sont venus, à l'époque, il y avait toute l'église et toutes ces choses-là, et ils ont brûlé les livres de Talmud. Ils ont brûlé, ils venaient avec des chronotes, avec des agalotes, des chars, des charrettes. Ils mettaient tous les livres dedans, et ici, dans cet endroit-là, ils les ont brûlés. Donc, c'est ce qu'il a dit dans le discours. C'était connu que les Allemands, ils marchent même, okay, ils s'énervaient quand ils rentraient dans les synagogues, tout de suite, ils prenaient les sifrets Torah, et Chas v'Shalom, ils les brûlaient, les sfarim de le Talmud, parce qu'ils savaient qu'en fait, c'est ça qui différencie le plus le peuple d'Israël par rapport à l'égoïme. Les nazim, ils appelaient les juifs Talmudistan. C'est quoi Talmudistan? Ceux qui utilisent le Talmud, les Chachamim du Talmud. Et ils savaient toujours, les Allemands, en général, ils attaquaient qui en premier? Toujours c'était les rabbins. Celui qui avait la barbe, un peu les peotes, la kippa, c'est eux qu'ils attaquaient en premier. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est eux qui sont les manigim en fait de le peuple d'Israël. C'est eux qui représentent le peuple juif. Dans la tfila, je vais montrer quelque chose. Il y a un sidour là quelque part. Les gens de la grande assemblée, Anshei Knesset Agdola, quand ils ont vu la destruction du deuxième temple, ils ont écrit la tfila du Kaddish. Itgadal v'itkadash. Vous connaissez, c'est une tfila qui est tellement élevée qu'ils l'ont mis dans toutes les tfilotes. Et quand on commence la tfila, de passer à un monde, à un autre monde, on a besoin d'un rajout de Kdusha, et c'est ça le Kaddish. Ça fait augmenter, on monte dans les évélations, c'est quelque chose qui est très 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 élevé. Et les Chachamim de l'époque, ils ont écrit le Kaddish, eux qui ont écrit l'Anshei Knesset Agdola. Et dans les Kaddish, regardez qu'est-ce qu'ils disent. À la fin du Kaddish, il y a une phrase comme ça. Al Israël ve'al Rabbanan. ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון דאסקין בורא את הקדישתה דיבת ההדן ודיבכל אתר ואתר סבדי הקוסי מולה על ישראל ועל רבנה ועל תלמידיהון הוא דמונד, היא דמונד דנסת בקשלה יהיה לנו להון ולכון חינה וחיסדה ורחמה מן קודם מראה שמי עברה ומואמן סבדי הקוע פורבי כיורה אין בונדנס יורה דו שפע יורה דו חן גרסיו יורה דו חסד יורה דו רחמים דמיז הריקורד de Hakadosh Baruch Hu, et surtout pour qui on a demandé pour Al Israël Val Rabbanan. Parce que les gens les plus importants dans le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est les Rabbanan, c'est les Talmidei Chachamim, c'est les rabbins. Val Talmidehon, c'est sur les élèves. Val Kol Talmidei Talmidehon, et sur les élèves de les élèves. De Askin Boreit HaKadishta, qui étudient la Torah. Parce que pour nous, c'est ça la chose qui est la plus importante. Tov. Il y avait, de temps en temps, dans beaucoup de pays, les goïms ne laissaient pas les juifs étudier la Torah. Et ils avaient besoin, les juifs, ils ont fait plein de choses pour quand même continuer à étudier la Torah chez Baal Peh. Il y avait des endroits, par exemple, où il était le Rif, les gens, ils étudiaient le Rif, la Halakha, En Yaakov, ça veut dire quoi? C'est des livres qui ont été écrits, qu'en fait, ce n'est pas le Talmud, mais c'est des explications sur le Talmud. Mais quand quelqu'un qui ne connaît pas, il croit qu'il n'y a rien que le Talmud, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup des livres qu'ils expliquent des sujets, par exemple, les Agadotes du Talmud, comme le livre En Yaakov. Donc, dans les endroits où on ne pouvait pas carrément étudier la Torah, on étudiait des livres qui sont parallèles à cette chose-là. Comme par exemple, vous savez tous, Ken, que c'est quoi l'Haftara ? Pourquoi ils ont instauré Chachamim qu'il faut lire l'Haftara ? Il y avait des moments dans le peuple d'Israël qu'ils ont interdit de sortir la Torah. Alors, puisqu'on ne pouvait pas sortir la Torah, alors qu'est-ce que les Chachamim faisaient ? Ils sortaient la Bible, et toujours l'Haftara, toujours elle a un rapport avec Parashat HaShavua. Toujours. L'Haftara, elle a un rapport avec Parashat HaShavua. Donc, dans les endroits où on ne pouvait pas sortir la Torah Shabbat et lire la Torah, alors on lisait dans la Bible, on lisait dans les prophètes, des choses qui ont un rappel avec la Parashat HaShavua. Quand elle est finie cette époque-là, qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah, alors on a continué quand même à voir ce minag-là d'étudier, de lire l'Haftara Shabbat. Maintenant, la Torah, on a dit la Torah, elle a été transmise, la Torah écrite, et les explications, c'est la Torah chez Baal Peh. Comment ça se fait que ça... Il y a encore une explication, comment ça se fait que la Torah orale n'a pas été écrite. Les explications de la Torah écrite, ils sont tellement grands qu'en fait, on ne pouvait pas les enseigner tous. Parce que toutes les explications, vous avez vu depuis que vous êtes à l'Yeshiva, combien de temps ça prend pour étudier une page de Gemara. Il y a tellement des explications. C'est tellement profond. Et en fait, si il fallait commencer à écrire toute la Torah orale avec toutes les explications, il n'y avait pas de fin. Il y a écrit, dans Kohelet, il y a écrit, « V'yoter mehem babni hizer asot sfarim arbe en ketz vela garbe igiat basar. » Ça veut dire quoi? Il faut faire attention que quand les gens, ils écrivent des livres, il y a beaucoup de gens, Baruch HaShem, ils écrivent des livres, n'en parlons pas de plus en plus avec les années. Les livres, c'est très facile à les sortir. Il paraît que rien que dans le monde charedi, dans le monde orthodoxe, tous les jours, en moyenne, il y a 5 nouveaux livres qui sortent. 5 livres. On est appelé le Am HaSefer, le peuple du livre. La Torah orale n'a pas été écrite parce qu'en fait, HaKadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité-là. Dans chaque génération, on doit expliquer, on doit apprendre. Qu'est-ce que la Torah, elle dit sur, par exemple, les nouvelles inventions? Depuis que, par exemple, l'électricité, ils ont inventé l'électricité, plein de halakhot, est-ce que Shabbat, quelqu'un qui a l'habitude de se couvrir avec une couverture électrique? Est-ce qu'il a le droit de continuer à se couvrir avec cette couverture-là? Vous connaissez, c'est une couverture électrique, il y a comme des fils dedans et elle chauffe. Okay, vous connaissez ça? Smicha Hashmalit. Plein de halakhot qui concernent, est-ce qu'on a le droit de monter dans un ascenseur de Shabbat? Avec donc la Torah orale, ça, les Chachamim, c'est rien que les Gdolei Talmidei Chachamim, qu'eux, ils ont cette possibilité-là, ils ont la Chochma de savoir qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Une fois, aux États-Unis, il y a un endroit où ils fabriquent les Chalaliot, les fusées pour aller dans la Lune. Il y avait une fois un astronaute juif qui était là-bas. Et là, on voyait, ils ont demandé une question. Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, c'était quoi la question? Ce astronaute-là, juif, il devait passer là-bas, c'est avec une chalalite qui fait le tour du monde chaque, je ne sais pas combien de temps, en un peu de temps, la chalalite, elle fait le tour du monde. Elle va rester là-bas, ils vont rester là-bas à peu près 10 jours, 2 semaines, là-haut. La question, c'était comme ça, puisqu'il était pratiquant, il mangeait kasher, il mettait les tefillines, la question, c'était comme ça. Quand il va être là-bas, c'est sans arrêt la fusée, la chalalite. Des fois c'est jour, des fois c'est nuit, ça dépend par rapport au soleil. Elle va très vite, cette chalalite-là. À quel moment il va mettre les tefillines là-bas? Vous avez une réponse? Quand est-ce qu'il va mettre les tefillines là-haut? Alors ça, c'est des questions, maman, ils ont demandé, il faut être maman chachacha pour répondre à cette question-là. Parce que là-bas, on ne sait pas, c'est tellement, ça va tellement vite, la journée, la nuit, ça fait le tour du monde, cette fusée-là. Quand est-ce qu'il va mettre les tefillines? Le rabbi a répondu, tu prends une montre avec toi. Et le matin, le dernier matin, avant de monter dans cette chalalit, je ne sais pas comment on traduit en français chalalit, ouais, c'est la fusée, ouais. Alors, la dernière, tu prends une montre avec toi. Et si, par exemple, tu as mis les tefillines à 7 heures du matin, et après, tu as commencé à monter dans la fusée, okay, tu vois chaque 24 heures, par rapport à l'endroit où tu es sorti, chaque 24 heures, même que tu vas être là-bas, là-bas, il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit. Chaque 24 heures, tu vas mettre les tefillines. C'est par rapport à l'endroit où tu es sorti, il faudra que tu vas mettre les tefillines. Ça, c'est des grands talmidei chacham qui savent répondre à des questions comme ça. Il y avait une fois, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une question qui était très connue, ça fait beaucoup de bruit. Les Juifs, ils sont arrivés, ils se sont sauvés, ils sont arrivés au Japon. Et au Japon, là-bas, c'est à peu près 12 heures ou 24 heures moins qu'ici. Et ils ne savaient pas exactement quand est-ce qu'ils doivent faire le jeûne de Yom Kippourim. Il n'y avait pas de juifs là-bas à l'époque. Et par rapport au calendrier juif, ce n'est pas exactement le même jour là-bas. Et ils étaient dans un doute. Il y avait deux jours qu'ils se doutaient. Quand est-ce qu'il faut faire Yom Kippourim? Est-ce qu'on va jeûner deux jours? C'est une mission presque impossible. Personne n'est capable de jeûner deux jours. Quand est-ce qu'ils vont faire? Ils avaient besoin d'une réponse pour savoir exactement quand est-ce qu'on va jeûner, quand est-ce que ça va tomber Yom Kippourim. Ils ont envoyé cette question-là à des rabbinim, ils ont envoyé ça au Chazon Ish, et le Chazon Ish, il a tranché, tel jour, ça va être le mercredi, ça va être votre Yom Kippourim. Préparez-vous avant, et le lendemain, vous mangez comme d'habitude. Donc lui, il a tranché par rapport à la position où il se trouve le pays du Japon, par rapport à Eretz Israël, il a fait tout des calculs, il savait exactement, et il a tranché quand est-ce que ça va tomber Yom Kippourim. Mais c'était des grands, c'est des chelotes avec des grands sphécotes. Il y a 2-3 jours, il y avait une histoire qui arrivait chez le Rav Kanievski Shlita. Récoutez bien cette histoire. Une femme qui était dans la Shoah. Son petit-fils, il s'occupait d'elle. Et elle avait très 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 peur que bientôt, elle a raconté à son fils que pendant 3 fois, elle était à Auschwitz. Après, ils l'ont ramenée là-bas. Et encore une fois, ils l'ont fait sortir encore une fois. Ils l'ont ramenée là-bas. Pendant 3 fois, elle était à Auschwitz. Jusqu'à la libération par les Américains. Elle a raconté à son fils qu'elle a vu Sheva Medore Genom. Elle a vu l'enfer devant elle. Tous ses copines, tous les gens qui étaient autour, tous, ils sont morts. Elle est restée vivante. Et sans arrêt, elle prenait un verset qui se trouve dans un chapitre de la Tfila qu'on dit tous les jours dans Shacharit. C'est un passage de la Tfila. Et la Shimcha Gadol, Yamod la Nubet Sarah, Karachem Abalbanim, Rachem Alenu, Chamol la Lamech, Avarachem Nachlatecha. Et elle a dit un verset de ce passage-là qu'on dit tous les jours dans les Tachanonim, à la fin de la Tfila. Elle voulait qu'après 120 ans, une fois qu'elle décède, qu'on va prendre un bout de papier, on va écrire ce verset-là. Elle avait l'habitude de le répéter des milliers de fois. Elle voulait être enterrée et que dans sa main, on va mettre ce papier avec ce verset-là. Ils sont partis, ils ont demandé cette question au Rav Kanievski. Est-ce qu'on a le droit de lui mettre dans sa main, elle voulait, ce papier avec ce verset qu'elle avait l'habitude de le répéter sans arrêt, parce que ça, grâce à ça, elle croit qu'elle a été sauvée. C'est ça qui lui a donné la force sans arrêt de croire dans Kadosh Baruch Hu. Et malgré tous les problèmes, tout, la catastrophe, la Shoah, elle est restée vivante, elle est restée Mamina, et c'est ce verset-là qui lui a donné la force. Elle voulait être enterrée avec ce verset-là. Alors, c'était connu qu'il y avait beaucoup, par exemple, je crois qu'on parle de Rabbeinu Bachaye, que lui, il habitait en Espagne. Une fois qu'il a décédé, il voulait qu'on va l'enterrer dans une armoire, qu'on va prendre cette armoire, on va la fabriquer de sa table où il avait l'habitude d'étudier et de manger. Parce qu'il a écrit Shulchan Domel le Misbeach. Le Shulchan, c'est comme l'hôtel, c'est le Misbeach. Et sur ça, puisque sans arrêt, il étudiait, il écrivait des livres, il voulait qu'avec ça, on va faire son tombeau. Et ils ont fait ça. Maintenant, ils ont demandé donc le Rav Kanievski cette question-là. Est-ce que cette femme-là, est-ce qu'on a le droit de lui mettre dans sa main quand elle va être enterrée ce pasouk-là? Dès qu'on a demandé cette question-là au Rav Kanievski, il a commencé à pleurer. Jusqu'où ça peut arriver la émouna? Quelle force elle avait cette femme-là pour avoir une émouna? Parce que malheureusement, beaucoup de gens, après la Shoah, soit ils ont perdu complètement la émouna, et pas beaucoup ils sont restés avec la émouna. Mais ils ont fait une fois une statistique qui était très intéressante. Les gens qui ont fini la Shoah, il y avait deux styles de gens. Il y avait des gens qui ont perdu complètement l'émouna, et il y avait les gens qui avaient encore l'émouna. Ils ont fait une statistique, 10 ans, 20 ans, pour voir après comment ils se sont remis. Qui c'est qui s'est remis mieux? Ils ont fait la statistique, ils ont vu quelque chose qui était incroyable. Les gens qui avaient émouna dans Kadosh Baruch Hu, ils se sont remis beaucoup plus facile que les autres. Les autres, ils étaient déprimés complètement. Ils ont perdu toute leur famille, ils étaient complètement déprimés complètement. Tandis que les autres gens, qu'ils avaient l'émouna, que même pareil, ils étaient exactement dans la même situation. Ils ont perdu leur famille, ils étaient tabassés, ils sont sortis, car Hamamash des Shladim, des cadavres, ils sont sortis de là-bas. Et eux, ils se sont remis d'une façon beaucoup plus que les autres. grâce à l'émouna qu'ils avaient. Donc d'abord, le Rav Kanievski, mamash, il a commencé à pleurer quand on lui a demandé cette question-là. C'est une histoire d'il y a 2-3 jours. Et à la fin, maintenant, ce verset laquelle a amené cette femme-là, ils ont demandé, le Rav Kanievski, c'est un pasouk ou c'est une tefila? Alors il a regardé tout de suite dans la Bible, il voyait que c'était une tefila qui a été écrite par un Cheikh Knesset Agdola, mais il a compris en fait c'est une partie d'une tefila, c'est pas un pasouk. Si c'était un verset, donc on n'a pas le droit de l'honneur de la Torah, on ne peut pas enterrer quelque chose comme ça, quelqu'un il l'attrape dans sa main, quelque chose comme ça. Mais puisque c'était une partie de tefila, pas d'un pasouk, alors il dit qu'on peut mettre kli betor kli, ça veut dire on met dans un kli qui va se trouver dans un autre kli, on peut la mettre ça à côté d'elle. Ça, c'est des questions qu'on demande à des grands talmidei chachamim, que rien qu'eux, ils peuvent répondre. Il y a encore une histoire à peu près dans ce style-là.